exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À suivre, vos réactions après la condamnation de Vital Kamerhe à 20 ans de prison. Le directeur de cabinet du président congolais Félix Tshisekedi a été reconnu coupable d'avoir détourné près de 50 millions de dollars de fonds publics qui étaient destinés à la construction de logements sociaux, de maisons préfabriquées dans le cadre du programme d'urgence dit des 100 jours. Le programme des 100 jours lancé par le président congolais. Vital Kamerhe a également été reconnu coupable de corruption aggravée. Il a aussi été déclaré non éligible pendant les 10 ans qui suivront l'exécution de sa peine. C'est un jugement inacceptable, a déclaré sur notre antenne le principal avocat de Vital Kamerhe. Aucune preuve n'a été produite. Les témoins n'ont rien dit de spécial, a déclaré Maître Guanica. En tout cas, la défense a immédiatement fait appel. Il faut dire que pour la défense, pour les avocats, pour les militants de Kamerhe, ce procès n'a été qu'une manipulation politique pour l'empêcher d'être candidat à la présidentielle de 2023. Alors que vous inspire ce verdict? Peut-on effectivement parler d'un complot politique? Ou faut-il voir dans ce procès un tournant dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo? On en parle durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Plus d'un millier de réactions postées sur le compte WhatsApp et Facebook d'Appel sur l'actualité. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, priorité au standard. Bonjour Robin.
Bonjour Juan, bonjour les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Kinshasa, dans la capitale, et vous vous dites finalement très satisfait de ce procès.
Oui, je suis très satisfait parce que l'impunité a élu domicile dans notre pays depuis beaucoup d'années. Il fallait donner ce signal fort pour faire peur aux éventuels détourneurs, quoi. Donc il fallait ce procès-là. Mais il ne faut pas crier victoire trop tôt. Attendons voir la suite parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont détourné des deniers publics et qui sont toujours dans le pays.
Oui. Il y a Bienvenu, par exemple, sur Facebook, qui nous dit « Attendre d'autres procès. Le précédent régime doit restituer à la République ce qu'il a détourné. Nous ne voulons plus vivre dans un pays où certains sont intouchables. » Vous êtes d'accord avec cet auditeur, Robin?
Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord parce que il y a un camp de gens qui s'enrichissent au détriment de la majorité de la population. Il y a beaucoup de problèmes qui nécessitent de l'argent pour faire décoller les pays, mais il y a des gens qui se permettent de bloquer ce décollage-là. On ne peut pas continuer avec ça.
Ouais. Mais vous êtes convaincu, vous, de l'indépendance de la justice. Vous entendez, évidemment, et mieux que moi, puisque vous êtes sur place, vous entendez les partisans, les militants, les avocats de Vital Kamerhe. Ils dénoncent, eux, un complot politique.
Bon, attendons voir. Il faut pas.
Oui, mais enfin, attendons de voir, Robin. J'imagine, comme des millions de Congolais, vous avez suivi ce procès qui était diffusé en direct à la télévision. Donc j'imagine que vous avez entendu les plaidoiries, les accusations. Vous avez été convaincu, vous, par les preuves?
Oui, moi j'ai été convaincu. Je ne suis pas juriste, mais ce procès m'a ouvert beaucoup de choses par rapport à la justice. Je crois que c'était un procès équitable.
Oui, mais un peu expéditif tout de même.
Non, pas vraiment. Parce
pas vraiment.
De...
Je vous pose la question parce que les avocats ont dit, voilà, ce procès finalement a tenu en 5 après-midi.
Oui, mais en 5 après-midi, les juges et les ministères publics ont eu à démontrer qu'il y a eu effectivement des tournements. Et puis les avocats, c'est leur travail, hein. C'est leur travail de défendre.
Ouais. Ouais. Aucun doute ne subsiste ici sur le détournement. Voilà ce qu'a dit le président du tribunal samedi lorsque le verdict a été rendu. Merci Robin d'avoir lancé le débat. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue Patrick. Êtes-vous surpris par ce verdict?
Bon, personnellement, je ne suis pas surpris parce que dès le départ déjà, l'issue était déjà connue. C'est sans surprise pour moi.
C'est-à-dire
que si vous avez bien suivi les déroulements du procès, vous allez vous rendre compte qu'il y avait déjà cette précipitation-là d'une condamnation du prévenu. Il n'y a pas eu vraiment quelque chose de surprise pour moi quand il a été condamné pour le 20 ans de prison. Donc c'était déjà quelque chose C'est prévu, ils ont préparé ça bien avant.
Donc vous laissez entendre, parce que ce n'est pas très clair dans vos propos, Patrick, qu'effectivement il y a eu complot, il y avait volonté de nuire à Vital Kamerhe, volonté de l'écarter de la prochaine élection présidentielle ?
Évidemment, donc ça a été une décision vraiment délibérée. Je peux même dire que c'est purement politique, ces procès, parce que si vous vous rendez compte, il y a tant bien des dossiers de plusieurs millions de dollars. Parlons de Youma, jusque-là, il n'a même pas été inquiété. Est-ce que vous pensez vraiment que ce n'est que avec ces procès qu'on va nous montrer la clarté vraiment de la gestion? En tout cas, je ne pense pas. Moi, je pense que ce sont des règlements politiques, ça n'a rien à voir vraiment avec... Ouais. Avec les buts poursuivis dans l'état de droit.
Ouais. Mais quand on regarde le calendrier, on est quand même à 3 ans de la prochaine élection présidentielle. Si vraiment Vital Kamerhe dérange, vous ne pensez pas qu'il est un peu trop tôt pour l'écarter d'un scrutin présidentiel ?
En politique, en réalité, rien n'est tôt, rien n'est tard. Parce que dès lors que c'était déjà connu dans leurs accords, qu'il serait le prochain candidat à la présidentielle en fonction de leurs accords de Nairobi. Mmh. En tout cas, il suffisait vraiment de quelque chose pour le noyer, de sorte qu'il ne se présente plus.
Ouais, je rappelle que cet accord conclu avant la présidentielle de décembre 2018 stipulait que Vital Kamerhe serait le candidat de la coalition qu'il a formée avec Félix Tshisekedi. Il serait le candidat de cash à la présidentielle de 2023. Patrick, merci beaucoup. On repasse très vite au standard. Il y a beaucoup de monde au 33 9 693 693 70. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Que vous inspire ce verdict, 20 ans de prison pour Vital Kamerhe?
Oui, c'est vrai que la justice a eu la main lourde, mais je crois que c'est amplement justifié dans la mesure où j'estime que le procès s'est déroulé normalement. Je trouve que c'est amplement justifié et que nous serons encore rassurés car on va s'occuper d'autres prédateurs. Qui ont volé dans la caisse de l'État.
Donc pour vous, incontestablement, c'est un procès historique que vous avez vécu ces 2 derniers mois.
Absolument. Nous, on en appelle vraiment à cette justice, à la République des juges. L'indicateur le plus clair, c'est la réaction des gens qui redoutent cette venue de la justice indépendante. Puisque nous avons vu le président de l'Assemblée nationale fustiger déjà la République des juges, et il y a un projet de loi qui a été déposé au Parlement pour essayer de minorer, de réduire l'influence des juges. Nous savons que les juges font peur maintenant et il faut pousser.
Oui. Je regrette beaucoup. Antoine, j'ai sous les yeux le commentaire de James sur Facebook. Il affirme qu'il n'y a pas de preuve de détournement ni de corruption à part des soupçons et des tâtonnements du ministère public. Arrêtons de parler d'une justice qui a fait son travail. C'est une justice instrumentalisée pour régler des comptes politiques.
Non, ça c'est trop facile. Je ne suis pas expert à droit, mais il est évident que dans nos pays, quand on a le pouvoir, on n'a pas besoin de voir sa signature apparaître sur les documents pour faire sortir l'argent de la banque. On a établi qu'il donnait des coups de fil pour qu'on retire des millions qui se baladaient en ville et ils n'ont pas contesté ça. Quand on a le pouvoir en Afrique, là, on n'a pas besoin de signer des documents pour sortir l'argent de la banque. Et on a établi ça, qu'il donnait des coups de fil, il donnait des ordres et les millions sortaient. Il ne faut pas nous raconter des histoires.
Le parquet a expliqué que Vital Kamerhe était non seulement l'ordonnateur des dépenses de la présidence, mais aussi celui qui, jusqu'en septembre dernier, septembre 2019, contrôlait les finances du programme des 100 jours. Merci Antoine. Bonne journée à Kinshasa. 33 9 693 693 70. Fortune sur WhatsApp nous dit c'est une nouvelle page, une nouvelle étape que la justice congolaise vient de franchir. On espère que ça ne s'arrêtera pas là. Serge Mbujimai, c'est le début d'une ère nouvelle, bien que beaucoup reste à faire. Ori Congo nous dit que la justice congolaise a fait son travail. Il n'y a pas eu d'acharnement politique. Je tire mon chapeau à la justice congolaise. Bonjour Billy.
Bonjour Roanne et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Contrairement aux trois auditeurs que je viens de citer à l'instant, vous, il n'y a pas de doute, ce procès était purement politique.
Bon, au fait, loin de nous l'intention de dire que Vital Kamerhe est exempt de tout reproche. Mais ce que nous voulons, c'est que moi, personnellement, je voudrais faire savoir, c'est que il ressort de ce procès que Vital Kamerhe est tout simplement victime d'une justice à double vitesse et puis d'un état de droit sélectif.
Alors, justice à double vitesse, argumenté, Billy.
Justement, j'ai dit justice à double vitesse parce que nous avons suivi les procès. Nulle part, nous avons vu, le pouvoir judiciaire n'a pas été en mesure de fournir des preuves tangibles pour pouvoir prouver sa culpabilité. Mmh. Et même si ça venait à se vérifier, il ne pouvait pas être le seul à être condamné. On a vu les témoins qui ont défilé devant la barre. On a vu les gouverneurs de la Banque centrale, on a vu les ministres de Finances. C'est eux qui ont été les ordonnateurs principaux pour le compte du Trésor public.
Alors, puisque vous les citez, l'ancien ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, qui ont effectivement été appelés à témoigner, ils ont affirmé avoir reçu des instructions de Vital Kamerhe pour payer en procédure d'urgence le fameux Sami Djamal, qui fait partie également des co-accusés et des personnalités qui ont été condamnées samedi dernier. Donc, les propos de ces deux personnalités, l'ancien ministre des Finances et du gouverneur de la Banque centrale du Congo, ne vous ont pas convaincu. Ce n'était pas suffisant, selon vous, comme preuve.
Non, pas du tout, parce que le directeur des cabinets, lui, dit qu'il a agi pour le nom et pour le compte du président de la République.
Donc il aurait fallu quoi ? Entendre le président de la République ?
Non, même pas. C'est-à-dire que moi, je suis en train de plaindre ce procès sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Parce que l'État ne peut pas se faire prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire que l'État est responsable de cette mégestion, de cette mauvaise gouvernance. Parce que déjà, lorsque vous avez un chef d'État qui se substitue au Premier ministre pour pondre des programmes en dehors d'un circuit de gouvernance, on ne peut pas s'attendre à autre chose qu'à une médiation, à un détournement de
fonds. Billy, pour faire simple, vous auriez souhaité d'autres condamnations.
J'aurais souhaité d'autres condamnations.
Ouais. Bon.
Et j'aurais souhaité aussi, parce que ce procès a abouti à la condamnation des attentats de Vital Kamerhe. Moi, j'aurais souhaité aussi que le procureur général de la République ou la Cour constitutionnelle puisse interpeller le président de la République.
Voilà, je reviens à la question initiale. Vous aurez bien voulu entendre le président Tshisekedi s'expliquer sur la gestion et le financement du programme des 100 jours. Donc, bon, il y a d'autres auditeurs qui patientent au standard, Billy. En tout cas, merci infiniment d'avoir participé au débat, d'avoir contribué à la réflexion. Hyacinthe, bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes dans le sud de la RDC, vous nous appelez de Kolwezi.
Effectivement.
Alors, complot politique ou indépendance de la justice ?
Moi, je parlerai beaucoup plus d'une indépendance de la justice parce que il était important pour le mandat du président de commencer par là, donc insuffler cet élan à la justice afin que celle-ci devienne indépendante. Donc c'était bien important, mais pour le reste, je pense que le chantier pour lutter contre la corruption est encore long parce qu'il faut encore des bases solides, comme ce qu'ont évoqué tout à l'heure mes prédécesseurs. Il faudrait que d'autres cas suivent, parce que pour un pays comme le Congo, parler du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme ou du détournement en tant que tel, ce ne sont que des corollaires de la corruption. Parce que tenez par exemple, dans ce pays, ça fait près de 30 ans que le détournement des fonds publics est totalement endémique. Et le dernier classement de Transparency sur l'indice de perception de la corruption classe le pays pratiquement au bas de l'échelle avec près de 18%. Donc, ouais. Ce sont autant de chiffres qui sont quelque peu révélateurs.
Donc, vous attendez désormais d'autres procès.
Effectivement.
Et donc, il faudrait qu'il y ait d'autres procès. Et est-ce qu'il faut remonter au précédent régime ?
Remonter, il faut savoir en fait comment y aller parce qu'il ne faudrait pas aussi arriver au niveau d'embraser le pays en fait. Donc il est évident qu'au niveau du précédent régime, il y a des choses qui se sont passées, il y a eu des détourneurs, et il est important, mais c'est pour ça que je parle des bases solides, arriver à condamner ce qui a condamné sans pour autant s'immiscer dans la justice, laisser celle-ci s'occuper de ces dossiers tout en veillant en fait au niveau de la prescription en fait.
Oui, enfin il y a Brice Renard sur Facebook qui nous dit refuser de fouiner dans le passé de son prédécesseur revient à être complice des crimes de l'ancien régime. Cela montre bien que le président Félix Tshisekedi a les mains liées et ne contrôle rien. Hyacinthe, merci d'écouter RFI à Kolwezi. Bonne journée à vous. On retourne dans la capitale congolaise à Kinshasa. Bonjour Horizon.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Ce verdict est politique, disiez-vous au standard.
Oui. Oui, pour moi, il est clair, donc il n'y a rien à contredire, puisque si je vois bien tout ce qui s'est passé, c'est comme si c'est quelque chose qui a été déjà boutiqué quelque part et on est venu nous présenter quel est le résultat.
Mais en même temps, excusez-moi, Horizon, c'est facile de dire le verdict est politique, argumenté. Que reprochez-vous à la procédure? Que reprochez-vous au procureur, au juge?
Oui, voyant le verdict, le juge n'a fait que recopier les réquisitoires du ministère public. Donc.
Oui, qui demandait donc 20 ans de travaux forcés, 20 ans de prison.
Oui, il n'a fait que recopier ça et il n'a fait que de référence à la jurisprudence des années 60, des années 70, des années 70, donc. Rien de convaincant, en fait.
Jurisprudence qui dit qu'il n'est pas obligatoire de retrouver l'argent dans les comptes de l'accusé pour que le détournement soit constaté. Vous faites référence à cela, j'imagine.
Oui, fais référence à cela. Et il y a aussi des témoins. Comme l'autre auditeur a parlé, il y a des témoins, par exemple le gouverneur de la banque, lui aussi devait normalement être accusé, puisque c'est lui qui a fait sortir l'argent, et il a même utilisé les réserves. Lui, en tant que technicien, il ne pouvait pas faire ça, même si l'ordre venait du directeur du cabinet. Et le directeur du cabinet dit que il a fait sous l'impulsion du chef de l'État, comme on l'a dit chez nous. On devait quand même nous montrer les annotations du président de la République, puisque le directeur de cabinet confirme qu'il a les annotations du président de la République. Ouais.
Donc vous avez des doutes, hein, vous, sur l'indépendance de la justice. Adolphe, bonjour.
Bonjour, Guam.
Vous êtes à Lubumbashi. Vous disiez être très fier de votre justice, des juges, des avocats. C'est une première, c'est historique. Je vous cite, hein, c'est ce que vous disiez au standard.
Oui, en tant que juriste, Maître Adolphe Moulimba, je voulais justement, une fois de plus, féliciter les acteurs judiciaires et ceux-là qui ont concouru à la réalisation de ces verdicts, et justement pour l'honneur de notre pays et l'honneur du peuple congolais, parce que c'est une fois dans l'histoire de notre pays. Il y avait des gens qui se considéraient être au-delà de la loi, donc qu'on ne pouvait pas les attraire.
Adolphe, il nous reste à peine une minute. Vous êtes avocat, si je comprends bien.
Oui.
J'imagine que vous avez suivi, comme la grande majorité des Congolais, ce procès à la télévision. Vous avez été, vous, convaincu par les preuves fournies pour culpabiliser Vital Kamerhe?
Oui. Monsieur le journaliste, les preuves qui ont été justement démontrées là par l'avocat Coco, c'était des preuves tangibles, monsieur. Les
journalistes. Oui, enfin, vous pouvez m'appeler Juan, monsieur le journaliste. Bon, donc en tout cas, vous avez été convaincu, vous. Je suis désolé, on arrive à la fin de l'émission. Bonne journée, Adolphe, à Lubumbashi. Demain, à mon avis, mon petit doigt me dit que vous serez tout aussi nombreux que ce matin, puisqu'on parlera de la crise politique au Mali. On reviendra évidemment sur cet impressionnant rassemblement vendredi, place de l'Indépendance. Encore des dizaines de milliers de personnes pour réclamer le départ immédiat du président Ibeka. Comment sortir de cette crise? Quelle issue politique? Faut-il un gouvernement d'union nationale comme le propose la médiation de la CEDEAO? Eh bien, on en parlera évidemment tous ensemble demain matin. Prenez soin de vous.